bienvenue à tous autour de cette grande table du mardi. Et dans la grande table des idées, deuxième partie de l'émission, une métropolisation heureuse est-elle possible? Et une ville pour tous, est-ce une utopie? Nous ouvrirons le dialogue avec l'essayiste et entrepreneur Robin Rivaton et le juriste Emmanuel Dauques à partir de 12h55. Mais d'abord, à l'occasion du 100e anniversaire de l'attribution du prix Goncourt à l'auteur de la recherche pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, nous partons aujourd'hui à la recherche du compositeur inconnu, directeur général, délégué du Quai Branly, président de la Société des Amis de Marcel Proust, collaborateur du magazine Diapason, l'écrivain Jérôme Bastianelli publie « La vraie vie de Vinteuil » chez Grasset, une biographie du compositeur fétiche de Swann. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut, il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Extrait d'un Amour de Swann de Marcel Proust. C'est une musique qui parle au cœur et qui accompagne Swann tout au long de la recherche. Une phrase musicale d'une sonate pour piano et violon attribuée par Proust au compositeur Georges Vinteuil. A-t-il vraiment existé ce compositeur? De qui Proust s'est-il inspiré? Bonjour Jérôme Bastianelli.
Bonjour Olivier.
Avec cette première biographie officielle du compositeur de Proust et de la recherche, aviez-vous envie d'être celui qui résoudrait l'énigme de la sonate de Vinteuil ?
Je pense que ça aurait été un objectif trop ambitieux, et je pense qu'on n'arriverait jamais à si tenter que ça soit vraiment utile de le faire, de lever cette énigme. Et Proust nous dit lui-même que dans le cas de Vinteuil, c'est comme dans le cas d'un certain nombre de personnages, même de la totalité des personnages qui apparaissent dans la recherche, c'est un amalgame entre différentes sources réelles qu'il a connues. Et donc la sonate, il multiplie les fausses pistes, ou peut-être les vraies pistes aussi, en nous disant que c'est un peu de ceci, un peu de cela, un peu de Franck, un peu de Fauré, un peu de Saint-Saëns, un peu même de Wagner ou de Beethoven. Donc c'est difficile, je pense, de fixer la définition de la sonate de Vinteuil sur une œuvre précise du répertoire tout à fait non virtuel.
Alors si ce n'était pas la résolution d'un mystère, qu'est-ce qui vous avoue intrigué? Pourquoi une telle entreprise de décodage et de démystification, comme vous l'appelez?
Bien quand même, quand on lit La recherche du temps perdu, Vinteuil tient une place quand même assez importante. Il est très présent justement dans les goûts musicaux du narrateur, bien sûr, et puis de Swann, comme vous l'avez rappelé. Et on sait très très peu de choses sur lui, donc il y a un côté un peu frustrant de se dire qui peut-être, quelle a pu être la vie d'ailleurs de ce compositeur aussi génial. D'ailleurs, à un moment, c'est une phrase que je mets en exergue du livre, Proust lui-même fait s'interroger Swann sur qui a pu être ce Vinteuil, quelle souffrance a-t-il pu endurer pour écrire une musique aussi novatrice, aussi géniale? J'ai pris soin aux mots et j'ai essayé d'imaginer quelle avait pu être la vie de ce Vinteuil.
Une biographie fictive fondée sur des faits réels de l'histoire musicale et politique du 19e, écrivez-vous. Vous êtes l'auteur déjà d'une biographie de Mendelssohn, de Tchaïkovski ou encore de Bizet. Est-ce que vous avez procédé, là, pour le mystérieux Georges Vinteuil, de la même manière qu'avec ses compositeurs prestigieux, en cherchant dans les moindres recoins de leur vie, en relisant les partitions, en analysant l'époque? Comment avez-vous fait?
Oui, j'ai voulu faire un pastiche aussi précis que possible d'une biographie classique. J'ai voulu, même à un moment, j'avais un rêve qui n'a pas pu se concrétiser, mais peut-être pour une prochaine fois, que cette biographie, je suis très content de chez Grasset dans la magnifique collection de Charles Dantzig, Le Courage, mais à un moment, je m'étais dit que ça pourrait aussi être amusant d'être édité dans une collection de biographies de compositeurs, pour montrer que c'était la même chose qu'un compositeur tout à fait réel.
Comme chez Actes Sud, par exemple.
Voilà, comme chez Actes Sud, avec lesquels j'avais travaillé. Mais il se trouve que Grasset a été le plus dynamique dans la réponse. Et vraiment, une fois de plus, je remercie Charles, qui a été vraiment très enthousiaste pour ce projet dès le début. Et ça s'est vraiment très bien passé. Et du coup, oui, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit sérieux, quoi. Qu'il y ait un petit peu des clins d'œil, des touches d'humour, que j'espère que le lecteur saisit, mais que ça soit aussi placer Vinteuil dans le 19e siècle musical. musical avec effectivement donc il y a tous les passages obligés de la biographie, la naissance, la rencontre des parents, la formation, les premières œuvres, les premiers échecs qui suivi de beaucoup d'échecs en l'occurrence pour Vinteuil, puisqu'il n'est pas, Proust nous l'indique, il n'est pas connu en fait, il est même à chaque fois qu'on joue son œuvre, on se demande de qui ça peut être, et vraiment ça c'est pas quelqu'un qui a eu un grand succès de son vivant, mais tout ça se retrouve dans cette biographie que j'ai voulu chronologique et aussi précise que possible.
Charles Tantzy qui redonne vie à des personnages tous les week-ends sur France Culture, en étant
qui m'a intéressé dans
d'être
mon
éditeur chez Grasset. Alors quels indices Proust a-t-il semé tout au long de la recherche sur la figure de ce compositeur qui seul a su mettre en musique les sentiments que Swann éprouve pour Odette? Qu'est-ce que vous avez trouvé entre ces lignes?
Il y en a très très peu. En fait, on sait que donc, c'est le professeur de piano des sœurs de la grand-mère du narrateur.
On sait quand même comment il est entré dans la famille.
Voilà, donc il connaît les sœurs de la grand-mère. Il habite à côté de cette ville de Combray. Il rencontre d'ailleurs le narrateur à l'occasion de ses voyages, de ses vacances à Combray. On sait aussi qu'il n'a pas de succès, que lorsqu'on le croise dans la rue, on n'imaginerait pas que c'est un compositeur génial. Il y a même Swann qui fait une méprise en disant qu'il ne veut pas croire que le gars aussi falot qu'il a croisé dans Combray soit le compositeur de la sonate qu'il a entendue chez Madame Verdurin.
Voilà, un homme assez timide, réservé.
Oui, réservé, très conservateur, très à cheval sur les convenances, sur la politesse, sur les bonnes manières. D'ailleurs, dans une première version, dans un brouillon, Proust le faisait appeler Monsieur Bonne Manière, parce que c'était vraiment la première chose auquel il pensait, c'était de savoir si les enfants étaient bien élevés, s'ils disaient bien bonjour monsieur, etc. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui est très... caractère très conservateur. On sait aussi, c'est un micro détail, je me suis un peu demandé pourquoi Proust nous l'avait glissé, que sa mère, à lui, Vinteuil, avait les yeux bleus, parce que bon, évidemment, un des personnages qui suit tout de près le compositeur, c'est sa fameuse fille, dont on parlera peut-être, qui donne pas bien du tracas à son père, avec ses amours homosexuels. Et on sait que sa fille avait les yeux bleus, la fille de Vinteuil avait les yeux bleus comme sa mère à lui. Donc c'est un petit détail que Proust nous indique. Mais sinon, pour le reste, il y a vraiment très très peu de choses. C'est sans doute aussi, faut y voir une illustration de la théorie que développe Proust dans Contre Sainte-Beuve, où finalement, ne nous intéressons pas à la biographie d'un artiste, mais intéressons-nous plutôt à son œuvre, et sur quoi, sans doute, si Proust lisait mon livre, il serait très mécontent de ce que j'ai fait, parce que là, pour le coup, je ne l'ai pas pris au mot.
Alors, il avait effectivement, il a arrêté d'aller donner ses cours de piano parce qu'il était, lui, un peu choqué, gêné, ce compositeur Georges Vinteuil, par la relation que Swann, l'amour qu'il pouvait entretenir, choqué par cela. Et en retour, en fait, il a eu à vivre ce que vous évoquiez, la liaison sulfureuse, scandaleuse de sa fille avec une autre femme.
Oui. Donc c'est une des scènes, une des premières scènes vraiment essentielles, je trouve, il y en a beaucoup des scènes essentielles, je serais tort de dire ça, mais une scène clé du début du côté de chez Swann, quand effectivement le narrateur surprend la fille de Vinteuil avec son ami en train de s'embrasser, même de cracher sur le portrait du père, une fête de profanation qui est terrible. Et on apprend que Vinteuil, il faisait semblant de rien voir, enfin, peut-être qu'il ne voyait rien, lui qui était pourtant très attaché, comme je l'ai dit, aux bonnes manières, il ne voyait pas les soi-disant mauvaises manières de sa fille, et il a fait comme s'il ne se passait rien. Et en même temps, là aussi, il y a un symbole intéressant, c'est que c'est grâce à l'amie de la fille, donc celle qui, logiquement, fait souffrir beaucoup le compositeur, que sa postérité sera établie, parce qu'elle-même étant musicienne, elle va déchiffrer, nous dit Proust, patiemment, les manuscrits, les pattes de mouche, les hiéroglyphes que Vinteuil a laissés. C'est grâce à ce travail d'édition, de préparation de la partition, que l'œuvre de Vinteuil peut aujourd'hui être connue, enfin, si on suit la théorie de Proust.
Alors ça, c'est le Vinteuil de Proust, et puis il y a votre Vinteuil à vous, dont on apprend qu'il est le fils illégitime du curé de Combray, dont on apprend qu'il est aussi à la tête d'une œuvre quand même assez importante, hein, au-delà de cette sonate-là.
Oui, alors l'histoire du curé, c'était, je l'ai voulu la faire apparaître dans les toutes premières pages pour balancer un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté un peu classique de la biographie, montrer à mon lecteur que dès le début, c'était quand même, il allait se passer des choses un peu bizarres dans cette biographie, que c'était pas uniquement une vie lisse, enfin que j'espère qu'elle est pas lisse du tout d'ailleurs, mais que c'était pour affermir le côté un peu pastiche de mon travail. En ce qui concerne le reste de l'œuvre, je me dis que j'ai voulu marcher sur les traces de Proust et me dire que, comme Vinteuil est l'auteur de deux œuvres majeures qui sont la sonate et le septuor, Proust lui-même d'ailleurs fait des évocations très courtes de deux autres œuvres qu'il attribue à Vinteuil dans La recherche du temps perdu, une variation pour orgue et un concert pour quatuor. J'ai voulu ne pas me limiter et montrer que c'est quelqu'un qui avait pu écrire des choses très, très originales, comme une partition pour percussion seule qui anticipe déjà presque sur Varèse ou sur ce que le XXe siècle musical donnera de plus audacieux.
Non, mais c'est tout sauf un homme lisse, votre Vinteuil à vous. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a aussi connu le trouble intérieur, qui a aussi connu la souffrance, et notamment celle de la perte de ses enfants à l'âge de 52 ans. Rappelez-vous, Georges se retrouvait veuf, père d'une nouveau-née, et affligé par un nouveau chagrin plus vif encore que celui causé par le décès de son fils 3 ans plus tôt. C'est peut-être dans cette douleur-là qu'il a commencé à composer la fameuse sonate pour violon et piano qui fait fondre Swann, écrite selon vous en 1870. Une sonate qui réveille l'essence de Swann, réactive sa mémoire. Où va-t-il, Swann, l'entendre pour la première fois, cette sonate ?
Alors, on sait qu'il l'entend pour la première fois. Enfin, la première fois qu'on rencontre la sonate, c'est dans le salon de Madame Verdurin. Mais ça lui rappelle un souvenir d'un an plutôt, je crois, que Proust précise qu'il y a environ un écart d'un an, où il avait déjà entendu dans un autre salon. Et c'est justement, il y a déjà cet effet de réminiscence. Il n'avait pas pu, au moment de la première écoute, savoir qui c'était. C'est comme si on redécouvre quelqu'un qu'on a croisé dans la rue et dont on a admiré l'élégance. Et que, par hasard, un an plus tard, on retrouve exactement pour la même personne. Il y a déjà une sorte de sentiment amoureux qui naît du fait de cette perte que Swann croyait irrémédiable et qui finalement l'anonymat de cette sonate lui est révélé grâce au Salon Verdurin.
La sonate de Vinteuil, Jérôme Bastianelli, on l'a tous en tête, cette phrase musicale. Est-ce que vous pourriez nous la fredonner ?
Ça dépend à laquelle vous pensez.
La vôtre.
C'est très difficile à chanter si vous voyez les descriptions de Proust. On pense à la sonate de Saint-Saëns qui aurait pu être un modèle particulièrement remarqué, puisque dans la première version de ce qu'est La Recherche, qui est le roman Jean Santeuil, le roman inachevé, il y a à peu près la même histoire autour d'une sonate musicale, et c'est pour le coup la sonate de Saint-Saëns qui est précisée. À mon avis, moi, ce qui correspond le plus quand je lis Proust à ce qu'est la sonate de Vinteuil, ce sont deux œuvres qui ne sont pas du tout de compositeurs français, puisque d'une part, c'est l'Arietta de l'opus 111 de Beethoven, avec cette idée d'une mélodie qui réapparaît derrière des trilles, des arpèges, des choses assez compliquées. C'est vraiment le sentiment qu'on a dans les dernières variations de l'opus 111 de Beethoven. Et puis, c'est une partie du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, parce que j'aime cette idée, même si c'est sans doute faux, mais l'idée me plaît quand même, que Proust a pu être inspiré dans le choix du prénom Odette, qui est amoureuse de Swann, du ballet de Tchaïkovski, que j'aime beaucoup. Et donc, ça peut être ce duo du premier acte, et si vous voulez que je le fredonne, je peux y aller, mais ça ne va pas forcément vous attirer des auditeurs.
Trop tard, vous avez déjà donné toute l'explication. C'est difficile, en tout cas, effectivement, d'interpréter ou de fredonner une sonate imaginaire, une sonate sans partition. Raoul Ruiz, le réalisateur cinéaste, n'a pu jouer de tous les subterfuges de l'imagination dans son film Le Temps Retrouvé. Il a fait appel à son fidèle collaborateur, le compositeur chilien de musique de film, Jorge Arriagada, pour nous faire entendre cette sonate de Vinteuil dans son film donc Le Temps Retrouvé, sorti en 99 avec Catherine Deneuve en Madame de Crécy, extrait du troisième mouvement. Thank you. vous confirmez en tout cas la structure en trois mouvements de cette sonate imaginaire.
Oui, ça, elle émane de Proust. Ouais. Enfin, Proust ne le dit pas clairement, mais quand on reconstitue les différents morceaux, on voit qu'elle est en trois mouvements.
Elle vous plaît, cette version ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Ben, je trouve qu'effectivement, on a cette idée du thème qui apparaît derrière un piano qui travaille beaucoup avec un mouvement un peu... dont on a du mal à percevoir la mélodie du piano, mais c'est vraiment l'écrin qu'il offre à la belle mélodie du violon. C'est assez dans l'esprit de ce que Proust a voulu décrire.
Quel défi quand même pour un compositeur de film de devoir imaginer une sonate littéraire et imaginaire. Une chose de Schubert, le prélude ou un prélude de Lohengrin de Wagner, de quoi Proust s'est donc inspiré. On a tout dit à ce sujet, la rattachant aussi à César Franck, à Camille de Saint-Saëns, à Claude Debussy, voire à Gabriel Fauré, jusqu'aux sœurs Milstein, des musiciennes qui sont sûres que Proust cite en fait la sonate pour violon et piano en ré mineur de l'opus 36 de Gabriel Pierney. Un débat de spécialistes aussi,
qui ne sera jamais
tranché. Cette sonate, c'est la Madeleine de Swann.
Eh bien, Proust l'a décrit comme l'hymne national de l'amour qu'il éprouve pour Odette. Et c'est d'ailleurs aussi un symbole intéressant dans la personnalité de Vinteuil, enfin dans la présence de la sonate, c'est que finalement, Swann va aimer cette sonate pour des raisons qui lui sont extérieures à la sonate. C'est-à-dire qu'il va l'aimer parce qu'elle lui rappelle justement la naissance de son amour pour Odette. Et c'est précisément un des exemples, il y en a d'autres dans La recherche du temps perdu, de ce que Proust appelle l'idolâtrie. Et c'est ce envers quoi il essaye contre quoi il nous met en garde. L'idolâtrie, c'est le fait d'aimer une œuvre d'art, en l'occurrence donc cette sonate, pour des raisons qui lui sont extérieures, parce que vous aimez un tableau parce que le portrait, ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous avez déjà vu. Vous aimez cette sonate parce que, justement, la première fois ou la deuxième fois que vous l'avez entendue, vous étiez à côté de l'être dont vous êtes amoureux. Et finalement, ça vous empêche de saisir le véritable message de l'œuvre en question. Et c'est l'idolâtrie, il faut vraiment s'en méfier.
Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que c'est partie de l'âme de Swann où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis, à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse.
C'est exactement ce que je disais, en beaucoup plus joliment dit.
À quoi la musique chez Proust permet-elle d'accéder ? Je vous propose d'écouter les mots d'un spécialiste de Proust, professeur émérite à la Sorbonne, Jean-Yves Tadier.
Aimer la musique, ce n'est pas ça du tout. C'est entrer dans ce qui est, pour Proust, un monde supérieur, qui n'est pas vraiment notre monde, mais qui est le sens de notre monde, un monde de l'essence, un monde plus profond ou plus élevé. Et c'est ce qu'incarne à merveille le Septuor de Vinteuil, qui pose de grandes questions métaphysiques sur l'origine du monde, sur le sens de la vie, sur la promesse d'une vie éternelle. Quand il parle de ces appels chargés d'aurore, c'est comme une invocation à une vie qui durerait toujours, contrairement à la nôtre, ou qui échapperait à la mort.
Jean-Yves Tadier, à propos de la musique dans La recherche du temps perdu, quelle place avait la musique dans la vie de Proust?
Une place essentielle. On sait que c'est un grand mélomane. On sait qu'il a lui-même appris à jouer du piano. Il en parle avec son ami Reynaldo Hahn, qui lui envoie des partitions et que Proust se moque un petit peu des indications d'interprétation que Reynaldo Hahn a indiquées sur ses partitions. Et puis, il écoutait énormément. Enfin, quand il sortait dans la première partie de sa vie, il allait au concert. Et puis après, on sait, il y a des anecdotes célèbres sur le fait qu'il payait des quatuors pour venir jouer chez lui pendant la guerre, les quatuors de Beethoven, le quatuor de Franck. Et puis on sait aussi qu'il écoutait, ce qui paraît aujourd'hui un exploit, écouter une représentation de Pélias et Mélisande au téléphone avec ce système qui s'appelait le théâtrophone. C'était vraiment un grand amateur de musique.
Il a eu une longue amitié avec ce compositeur que vous évoquez, Reynaldo Hahn, qu'il rencontre en 1894. Leur correspondance a d'ailleurs été publiée depuis chez Gallimard. Il avait une prédilection, là on entend un extrait de sa sonate pour violon et piano, celle de Reynaldo Hahn. Et il avait une prédilection pour quel compositeur ? Proust, Beethoven ?
Proust, il aimait beaucoup Beethoven, il aimait beaucoup Wagner. Wagner qui est un des compositeurs les plus cités. Il aimait aussi Debussy. Debussy le trouvait snob, mais Proust aimait beaucoup la musique de Debussy. Donc je vais parler de Péléas. Il aimait beaucoup aussi César Franck. Hein, c'était un compositeur, le quintet de Franck, la sonate pour violon de Franck, qu'il a aussi demandé à des interprètes de venir la jouer chez lui.
Est-ce qu'il écrivait en musique ?
Je pense pas, parce que là, c'était compliqué à cette époque-là. Mais il avait justement, par rapport à Anne, des goûts sans doute un peu plus modernes que Anne, qui était quand même plus le mozartien ou élève de Massenet, des mélodies peut-être un tout petit peu plus simples, enfin, des compositeurs qui s'intéressaient moins à l'évolution, à la création d'un nouveau langage qu'à la patine mélodique de leurs propres œuvres.
Peut-être qu'il faisait venir ses quatuors et qu'il se mettait à sa table et qu'il écrivait pendant ce temps. Ça, l'histoire ne le dit pas, en tout cas.
On ne sait pas ce qu'il faisait. J'imagine plutôt qu'il avait une écoute très concentrée, mais peut-être qu'on peut se plaire à imaginer que certaines pages de la recherche ont été écrites pendant qu'il écoutait le quatuor Poulet chez lui.
Et son écriture reste très musicale pour vous ?
Ah oui, son écriture est très musicale, ouais. Tout à fait. Il y a un sens du rythme, de la mélodie, justement. Il y a une très très belle phrase où il parle des phrases de Chopin, justement des mélodies de Chopin qui n'en finissent pas et qui tournent en l'air avant de se poser définitivement. Et je trouve que finalement, cette description que Proust fait dans la recherche de la phrase de Chopin s'applique extraordinairement bien à ses propres phrases. Et en décrivant la musique de Chopin, il décrit un peu sa manière d'écrire.
Alors c'est cette année le centenaire du prix Goncourt reçu par Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Vinteuil a refusé, lui, le prix de Rome. Proust, lui, va désirer le Goncourt et il va finir par l'obtenir donc en 1919. Récit du jour J par Céleste Albaret qui travailla au service de Monsieur Proust.
Marcel Proust, lorsque je lui ai demandé ce qu'était le prix Goncourt, me répondit que pour lui, c'était le seul prix littéraire qui comptait à ses yeux. Le jour où le prix lui fut attribué, je peux vous assurer qu'il n'y pensait même pas. Je lui avais servi son café, son déjeuner vers les 3 heures de l'après-midi, et il me demanda de ne le déranger pour personne. À 5 heures arrivèrent Monsieur Gallimard, Monsieur Gide et Monsieur Jacques Rivière, qui m'annoncèrent la victoire de mon maître et qui réclamaient de le voir à l'instant. Je répondis que cela était impossible. Toutefois, devant leur insistance, j'allais jusqu'à la chambre de M. Proust et me permettais d'entrer chez lui sans être appelé. M. Proust accepta enfin de les voir quelques minutes et il les congédia aussitôt. La consécration du prix Goncourt lui fut une grande joie, mais ne l'étonna pas. Il lui semblait que c'était justice rendue.
Bon. Il paraît qu'il a quand même beaucoup désiré ce
Goncourt.
Oui,
je pense qu'il a...
Est-ce que ce prix a changé sa vie ? Certains disent que c'est surtout Proust qui a changé le Goncourt.
Je pense qu'effectivement, ça a changé la vie de beaucoup de gens. Et aussi des éditions Gallimard, pour lesquelles c'était une petite maison à l'époque, Gallimard. C'est grâce à ce Goncourt que ça a été le début d'une longue série de prix Goncourt décernés à Gallimard. Ensuite, effectivement, ça a un peu changé la vie de Proust quand même, parce que ça lui a donné une popularité, même si au début, il y a eu un gros scandale dans la presse, tout le monde était un peu contre, parce qu'on sortait de la Première Guerre mondiale, pardon.
Oui, a priori, les livres récompensés parlaient
voilà,
de la guerre.
Voilà, il était en concurrence avec Roland Dorgelès, qui avait écrit Les Croix de Bois, et c'était une sorte d'hommage à tous ces millions de morts.
Et le prix Goncourt devait consacrer plutôt des jeunes auteurs.
Voilà. Ouais. Alors, jeunes auteurs, après, il y a une polémique, parce que Proust c'était son deuxième, le troisième livre, si on considère que Les Plaisirs et les Jours sont son premier. Mais on pouvait considérer que c'était un jeune auteur, quelqu'un qui n'avait pas commencé à écrire depuis très très longtemps. Et donc c'est ce qui a permis au prix Goncourt, au jury, de justifier son choix, en l'occurrence.
Et un choix, aujourd'hui, auquel vous rendez, on imagine, hommage.
Oui, tout à fait. Alors d'une part, à la Société des Amis de Marcel Proust, nous organisons une exposition à la maison d'Ille et Combray, justement, en partenariat avec le département de Eure-et-Loir et les éditions Gallimard. Exposition qui retrace l'histoire incroyable de l'attribution de ce prix avec des documents qui n'ont jamais été présentés au public. Et puis, c'est la première fois qu'on a aussi le fameux tableau de Jacques-Émile Blanche représentant Proust qui est conservé au musée d'Orsay, qui nous a été prêté exceptionnellement et qui donc est, pour la première fois, c'est un beau symbole, me semble-t-il, exposé dans la maison que Proust a fréquenté quand il était enfant.
Quel type de documents jamais présentés ? Il y a les délibérations du jury ?
Il y a des lettres, il y a le contrat d'édition de Proust, par exemple, entre Proust et Gaston Gallimard. Un certain nombre de lettres, des éditions de luxe que Proust avait lui-même produit de La Recherche du Temps Perdu à l'époque, beaucoup de courriers, de d'exemples de découpage d'articles de journaux qui montrent justement ça, le côté très polémique de cette décision du jury Goncourt. Et puis le département d'Eure-et-Loire a aussi organisé une dizaine de jours de manifestations du 11 au 19 mai qui s'appelle le Printemps Proustien, auquel la Société des Amis de Marcel Proust participe bien évidemment, en ouvrant gratuitement pendant ces 10 jours la maison de Tante Léonie à Illiers-Combray, avec une centaine de manifestations. Alors ça serait évidemment trop long pour moi de vous les détailler, mais ça va du Salon du Livre à des lectures, des concerts, je crois qu'il y a même un concours de Madeleine. Enfin, des choses qui s'adressent vraiment à tout le monde pour que tous les habitants et tous les amateurs de Proust, à la fois les habitants de la région et tous les amateurs du Proust de France ou les touristes, puissent se retrouver autour de cette belle célébration du centième anniversaire du prix Goncourt.
2019, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui Marcel Proust est un auteur populaire ?
Populaire, je ne sais pas, mais en tous les cas, il est très très connu. Chacun a peut-être envie de se confronter à un moment ou un autre de sa vie à l'œuvre de Proust. Il ne faut pas insister si ça ne marche pas, mais il faut se dire que rien n'est définitif. D'ailleurs, Proust le dit lui-même, on peut passer parfois et avoir l'impression qu'on a frappé à toutes les portes et qu'aucune ne s'est ouverte. Et puis à un moment, par hasard, la porte va s'ouvrir. Et bien, je crois que pour la lecture de Proust, il faut utiliser cette même théorie, se dire que si on n'y est pas sensible à un instant de sa vie, peut-être qu'on y sera sensible dans 10 ans. Il y a plusieurs manières. On peut commencer par un amour de soi, on peut commencer par le dernier volume, on peut... Moi, je trouve que c'est un peu comme le crawl aussi. J'ai aussi parfois cette mauvaise métaphore de dire qu'il faut... C'est très difficile de nager du crawl quand on ne sait pas où placer sa respiration. À un moment, dans Proust, il faut savoir où placer sa respiration. Et après, on peut faire des longueurs de piscine sans s'apercevoir, sans se fatiguer.
C'est aussi ce qu'écrivait la romancière Nathalie Quintane dans Ultra Proust, qu'à force de nous offrir Proust sur un plateau, on nous en prive parfois, et de plaider pour un oubli obligatoire de Proust pour mieux le redécouvrir à chaque fois.
Je comprends ce qu'elle veut dire.
Pour mieux se le réapproprier et apprendre à l'aimer à sa manière. Merci beaucoup à vous, Jérôme Bastianelli.
Merci à vous.
On peut retrouver sur un site toutes les dates que vous nous avez indiquées.
Oui, alors il y a d'abord le site du Printemps Proustien, voilà. C'est le nom de ces manifestations du 11 au 19, et puis le site de la Société des Amis de Proust, amisdeproust.fr.
Et dans toutes les bonnes librairies, La vraie vie de Vinteuil, votre roman publié chez Grasset. Merci encore, Jérôme Bastianelli.
Merci à vous.